Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est une page qui se tourne ce mardi au Vatican. Un fin diplomate, loyal, discret et mesuré, va assumer la charge de secrétaire d'État du Saint-Siège. Le nouveau bras droit du pape, c'est Monseigneur Parolin qui va succéder au cardinal Berton. Le pape François invite l'Église à poursuivre le chemin du Concile et à se dépouiller des fausses certitudes mondaines qui alourdissent son message et détériorent son vrai visage. Il l'a dit en recevant le Conseil pour la nouvelle évangélisation. Il est urgent, selon lui, de surmonter la fracture entre l'évangile et la culture actuelle. Un jugement lourd de conséquences en Malaisie, un quotidien catholique ne pourra plus employer le mot Allah pour désigner Dieu. La justice a estimé que cela risquait de provoquer des conflits dans la société, un coup dur pour la communauté chrétienne. Éthique et économie ne font pas souvent bon ménage. Dans la crise actuelle qui accentue le fossé entre riches et pauvres, les chrétiens ne peuvent pas se taire. Gros plan en fin d'émission. C'est donc une nouvelle ère qui commence au Vatican. Un nouveau secrétaire d'État prendra ses fonctions ce mardi. Monseigneur Pietro Parolin succédera au cardinal Tarcisio Bertone. Nommé le 31 août, il deviendra ainsi le premier collaborateur du pape François, un premier ministre en quelque sorte. Après son élection en mars, le pape argentin avait souhaité prendre son temps avant de désigner le successeur du cardinal Bertone, qui a dû, comme on le sait, affronter de nombreuses tempêtes. Le choix de Monseigneur Parolin a été salué de toutes parts. Italien, polyglotte, âgé de 58 ans, le nouveau secrétaire d'État est un diplomate chevronné qui connaît bien la curie romaine. Il a été pendant 7 ans sous-secrétaire de la deuxième section, ce qui l'a amené à travailler sur les rapports avec la Chine communiste, le Vietnam et Israël. C'est notamment à lui que l'on doit la lettre aux catholiques chinois. Et c'est lui que Benoît XVI avait choisi pour représenter le Saint-Siège au Venezuela, un poste ultra-sensible du temps d'Hugo Chavez. Autant d'atouts donc pour renouer avec la diplomatie internationale. Je vous propose d'écouter le cardinal Jean-Louis Torrent, avec qui Monseigneur Parolin a étroitement travaillé à la section pour les rapports avec les États.
Je pense que c'est un choix excellent. C'est un excellent prêtre et puis je pense qu'il a une grande expérience internationale. Et il est jeune, donc il pourra accompagner le pape dans la réforme de la curie et je pense qu'il sera un orateur très efficace.
C'est un retour du profil diplomatique.
Oui, sans doute, oui. Mais c'est un bon négociateur, très équilibré, je pense qu'il fera très très bien.
C'est à la fois un diplomate aguerri, mais aussi un homme de terrain.
Oui, sans doute, très très réaliste.
Peut-on parler, en quelque sorte, d'une rupture avec l'ère du cardinal Berton ?
Non, je n'aime pas beaucoup parler de rupture, je dirais. C'est notre style, et puis notre génération, et notre expérience aussi.
Monseigneur Parolin a travaillé sur des dossiers particulièrement délicats. Est-ce qu'on peut parler de véritables succès dans les missions qu'il a menées concernant le Moyen-Orient, mais aussi le continent asiatique, en particulier le Vietnam et la Chine ?
Je crois qu'il ne faut pas voir ça en termes de succès. Je crois que surtout ce qui est important, c'est qu'il a accompagné les églises locales dans leurs difficultés. Une approche pastorale aussi, qui est très importante. La diplomatie est au service de la pastorale. Et ça, je crois que M. Parolin a très bien compris et le vit.
Quel souvenir gardez-vous de sa façon de travailler, de sa personnalité ?
Ah bien, il a été 4 ans mon sous-secrétaire et j'ai toujours apprécié sa discrétion, sa grande capacité de travail et son esprit sacerdotal.
Monseigneur Parolin a beaucoup œuvré en faveur de la paix. Lorsqu'il a été nommé, il a en particulier salué l'élan du pape pour la paix. Ce sont deux personnalités qui peuvent véritablement travailler en symbiose.
Je pense, oui, parce que ce sont deux hommes qui sont très calmes, de vie intérieure, et qui ne se laissent pas impressionner, disons, par les événements. Je crois que c'est deux tempéraments qui iront très bien ensemble. Et je souhaite à Monseigneur Parolin beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions, et je pense que beaucoup lui assureront loyauté et amitié.
Le cardinal Jean-Louis Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, interrogé par Hélène Destombes. J'ajoute que le cardinal Bertone, qui aura 79 ans au mois de décembre, occupait la charge de secrétaire d'État du Saint-Siège depuis le 15 septembre 2006. La passation de pouvoir aura lieu au cours d'une audience officielle mardi matin dans la bibliothèque du pape. Les discours qui seront prononcés à cette occasion sont très attendus. Pour le pape François, évangéliser, cela veut dire aller à la rencontre de tous, sans distinction ni exclusion. Le Saint-Père l'a réaffirmé lundi matin au cours de l'audience qu'il a accordée au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, réunie à Rome pour son assemblée plénière. La crise actuelle est profonde, a-t-il reconnu, mais il ne faut pas culpabiliser ceux qui se sont éloignés de l'Église. L'Esprit Saint nous pousse à sortir de notre enclos. Le compte-rendu du discours du pape avec Olivier Bonnel.
Le pape relève un comportement grandissant d'indifférence vis-à-vis de la foi dans la vie de l'homme. La nouvelle évangélisation signifie réveiller dans le cœur et dans l'esprit de nos contemporains la vie de la foi, précise-t-il. Comme souvent lors de ses interventions, le pape a développé sa pensée en trois points. Le primat du témoignage d'abord, François invite les chrétiens à vivre leur foi de manière concrète, à être des témoins crédibles qui rendent visible l'Évangile, en particulier à travers la miséricorde de Dieu. Deuxième point, l'urgence d'aller à la rencontre. La nouvelle évangélisation est un mouvement renouvelé vers qui a perdu la foi et le sens profond de la vie, souligne le pape. Un dynamisme qui fait partie de la grande mission du Christ de porter la vie au monde et dans lequel est plongée l'Église. L'Église, relève François, est la maison dont les portes sont toujours ouvertes, non seulement pour y trouver accueil et respirer amour et espérance, mais aussi pour pouvoir les porter à l'extérieur. La nouvelle évangélisation exige enfin un projet pastoral qui soit centré sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le Christ lui-même. Cette rencontre avec le Christ, sa miséricorde et son amour de tout homme est primordiale. Ce projet pastoral doit être animé de la créativité et de la fantaisie de l'Esprit-Saint, souligne le pape, qui nous pousse à parcourir des voies nouvelles sans se fossiliser. Il s'agit notamment de rendre visible cet essentiel au niveau des paroisses et des diocèses. Le pape insiste enfin sur l'importance de la catéchèse des plus jeunes, un service précieux de l'évangélisation. Une catéchèse, note-t-il, qui s'effectue avant tout en famille, par les parents, premiers éducateurs dans la foi.
Le rapporteur et le secrétaire spécial du prochain synode des évêques ont été choisis. Il s'agit respectivement du cardinal hongrois Peter Erdő, archevêque de Budapest, et de l'éminent théologien italien Mgr Bruno Forte, évêque de Chieti. Cette assemblée générale du synode des évêques sera consacrée, je vous le rappelle, aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Elle se déroulera du 5 au 19 octobre prochain au Vatican. La question du statut des divorcés remariés sera officiellement abordée. Dans l'avion qui le ramenait de Rio en juillet dernier, le pape François avait affirmé qu'il fallait repenser toute la pastorale matrimoniale et réviser la question juridique de la nullité de mariage. Pour lui, il est essentiel que les orientations pastorales soient prises de manière collégiale. La convocation de ce synode extraordinaire a été l'un des grands thèmes de la rencontre il y a une dizaine de jours entre le souverain pontife et le conseil des huit cardinaux choisis pour le seconder dans le gouvernement de l'Église et la réforme de la curie. Écoutez à ce propos l'un des huit cardinaux, George Pell, archevêque de Sydney en Australie.
Parmi les cardinaux, l'atmosphère était très bonne. En grande part, nous avons rencontré l'un l'autre pendant beaucoup des années. Et nous tous aimons l'Église et aimons le Christ. Et nous voulons faire les choses mieux pour la vie de l'Église. Et quelquefois, il y a des positions un peu différentes, mais c'est la vie. C'est seulement dans les musées qu'il n'y a, pas de différence.
Et le pape?
Il n'a pas parlé beaucoup. Il était là pour écouter. Et il a parlé ici et là, mais pour la grande majorité du temps, il était silencieux. Mais il y a une chose qui est très, très bonne. On peut dire quelque chose devant le pape. Il ne devient pas contre non. C'est un don pour nous, mais pour l'Église. Parce que nous nous sentons libres de parler comme nous voyons les choses.
Et vous avez d'ailleurs suggéré des réformes importantes.
Pour le futur, nous verrons. Nous verrons.
Vous espérez?
Oui, oui, certainement.
Le cardinal Pell, archevêque de Sydney, interrogé par Marie Duhamel. En Malaisie, je vous le disais en titre, la justice a rendu son verdict. Les non-musulmans n'ont pas le droit d'employer le mot Allah pour désigner Dieu. Ce lundi, la cour d'appel de Putrajaya, la capitale administrative du pays, a pris le parti du gouvernement contre un avis de justice datant de 2009 et qui avait permis au journal catholique The Herald de reprendre sa publication après plusieurs mois d'interdiction et d'utiliser le mot Allah. Aujourd'hui, retour donc à la case départ pour l'hebdomadaire diocésain Marie Duhamel.
L'hebdomadaire catholique n'utilisera plus le mot « Allah ». Un panel de trois magistrats l'a exclu, s'appuyant sur deux arguments. D'abord, disent-ils, l'usage du mot « Allah » sèmera la confusion dans la communauté malaise. De manière d'interpréter cela pour la presse internationale, où les juges redoutent de voir comme en 2009 des églises brûlées par une frange de musulmans radicaux, où ils reprennent là à leur compte les craintes déjà formulées par le gouvernement malais que des chrétiens se servent du mot « Allah » pour convertir des musulmans. En tout cas, pour les magistrats, la préservation de la paix et de l'harmonie dans le pays est un plus grand bien que le respect des droits des minorités religieuses. Autre argument avancé par les juges, l'usage du nom Allah, qui, rappelons-le, en malais veut dire Dieu, ne fait pas partie intégrante de la foi chrétienne. Faux, répond le père Lawrence Andrew, le fondateur de The Herald.
C'est une façon malheureuse de voir les choses. On ne peut pas dire, comme ils essayent de le faire, que Dieu n'est pas une partie intégrante de la foi chrétienne. Dieu est une partie intégrante de toutes les religions. S'il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qu'on entend par religion ?
Les chrétiens malais utilisent le mot Allah depuis 400 ans. Un antique dictionnaire latin malais publié par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 1631 en est la preuve. Le père Andrew déplore un verdict injuste portant atteinte aux droits des chrétiens alors que la Constitution garantit pourtant le droit à la liberté religieuse et à la liberté d'expression. Pour l'instant, la portée de ce jugement est limitée à la publication de The Herald, ne concerne pas la Bible. Mais pour combien de temps encore, le père Andrew redoute un glissement vers un islam politique.
À la vitesse à laquelle ça va, nous serons bientôt un pays musulman avec la charia pour loi.
Et pour contrer ce phénomène, le journal catholique ne s'avoue pas vaincu, finalement soutenu par les autres églises chrétiennes. The Herald a annoncé qu'il ferait appel devant la Cour suprême du pays de ce jugement. En attendant, l'hebdomadaire devra utiliser le mot « Seigneur » à la place du mot « Dieu ».
Pas de funérailles religieuses pour Éric Priebke. Les obsèques de l'ancien criminel de guerre nazi n'auront lieu dans aucune église romaine. Le vicariat de Rome l'a confirmé dans un communiqué. Le diocèse de Rome avait proposé que le rite se déroule sous une forme strictement privée au domicile du défunt, mais cette proposition a été rejetée par l'avocat de l'ancien officier SS. L'éventualité qu'une église puisse accueillir la dépouille de celui qui avait été surnommé le « boucher » avait suscité une vive émotion à Rome, d'autant que la capitale italienne se prépare à commémorer mercredi le 70e anniversaire de la déportation des Juifs du ghetto. Mort vendredi à l'âge de 100 ans, Éric Priebke avait été condamné à la réclusion à perpétuité en 1998 en Italie, puis assigné à résidence pour sa participation au massacre des fosses ardéatines. 335 civils italiens avaient été tués en mars 1944 à Rome, en représailles d'un attentat commis par des résistants romains contre une unité SS. Éric Priebke n'a jamais exprimé de remords ni renié ses convictions nazies. Le directeur du centre Simon Wiesenthal, l'organisation juive qui lutte pour que les criminels nazis répondent de leurs crimes, a proposé que la dépouille de l'ancien SS soit remise à l'Allemagne et qu'elle procède à son incinération. Il est selon lui essentiel d'éviter que les funérailles et l'inhumation ne se transforment en un show de néo-nazis. La crise économique mondiale prend racine dans une crise morale et culturelle. Après Benoît XVI, le pape François n'a cessé de le répéter avec fermeté. Les nouvelles idéologies, comme la maximisation des profits en un temps record et la non-redistribution des richesses, mènent à un dangereux démantèlement de l'économie réelle. Résultat, on assiste à un accroissement des inégalités qui mettent en péril la démocratie elle-même. Alors comment remettre la finance et l'économie au service de l'être humain ? Thomas Chabol a posé la question à sœur Cécile Renoir. Elle est l'auteur de « Éthique et entreprise, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire », publié aux éditions de l'Atelier.
L'enjeu, c'est vraiment de réencastrer l'économie à la fois dans le social, dans la société et dans l'environnement, dans le cosmos, dans la création tout entière. Il me semble qu'aujourd'hui, nous prenons de plus en plus conscience de l'urgence qu'il y a à prendre en compte les enjeux écologiques. Ça implique de notre part à tous non seulement un discours qui tire l'alarme, mais aussi des pratiques qui en tirent les leçons et qui essayent de promouvoir un autre modèle à la fois de production. Donc il s'agit de changer notre système de production, mais aussi de changer du coup nos habitudes comme consommateurs, comme citoyens. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les différentes récentes encycliques et les différentes prises de position du pape François vont tout à fait dans ce sens-là.
Le modèle de la coopérative, c'est un modèle qu'il faut travailler, c'est un modèle qu'on doit mettre plus en avant.
Je souligne les enjeux qu'il y a à promouvoir une responsabilité accrue de la part des entreprises. Et c'est vrai que je travaille plus particulièrement sur l'engagement des multinationales dans les pays du Sud. En gros, c'est de faire attention aux effets directs et indirects, négatifs de l'activité économique sur à la fois le tissu social local, sur l'environnement, et ensuite de voir quels peuvent être donc des effets pervers liés à un modèle économique qui est quand même largement basé sur l'idée que tous doivent avoir accès à de la consommation de masse. Mais on sait bien qu'en réalité, c'est insoutenable à l'échelle de la planète. Alors du coup, pour revenir à votre question sur les modèles économiques, il me semble que le modèle coopératif est sans doute très adapté, notamment à des plus petits projets qui émanent de la base, de personnes qui se mettent ensemble pour développer des activités utiles dans leur sphère propre. Ensuite, il y a quand même un certain nombre de secteurs dans lesquels il me semble que le système coopératif n'est pas vraiment adapté. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les moyens à la fois liés à l'engagement des entreprises, mais aussi liés à la réglementation, qui permettent d'harmoniser les règles du jeu pour l'ensemble des acteurs économiques, et notamment pour promouvoir. Alors, cette mise en œuvre se décline dans différents champs, depuis le champ de la fiscalité, de la contribution des entreprises au développement via les impôts qu'elles payent aux pays dans lesquels elles ont des activités. Et là, il y a beaucoup à dire. Et cette année, l'OCDE a publié des rapports où décortique les pratiques par lesquelles les entreprises font de l'optimisation fiscale à outrance. Et puis, il y a évidemment le champ social, les conditions dignes de vie, de travail des salariés à tous les niveaux, les aspects donc sociétaux et environnementaux. Et puis, il me semble, pour prendre en compte les aspects globaux, pour pouvoir promouvoir d'autres modèles.
Quand le pape François, et on l'entend souvent, il évoque souvent ce dieu argent qu'il faut en quelque sorte abolir, mettre de côté, essayer de dépasser. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je suis très frappée chez des jeunes et des moins jeunes par la manière dont, alors de différentes manières, on peut dire l'appât du gain pour certains, le désir de faire carrière pour d'autres, la manière dont il y a une véritable attraction liée à de l'argent gagné, qui est aussi une manière de valoriser la personne. Et là, je pense que pour les chrétiens, il y a de fait un enjeu fort à résister à ces tentations-là, entre guillemets, et se dire que la qualité de la personne n'est pas liée au niveau de rémunération que l'on a, qu'il est possible de vivre bien avec un salaire peut-être 10 ou 100 fois moins important que celui qu'on reçoit, et que ça fait une différence de se dire que, enfin, choisir de gagner moins peut permettre de redistribuer. Il y a un certain nombre d'arguments qui consistent à dire que le fait qu'un tout petit nombre gagne beaucoup ne fait pas de différence dans la répartition globale, ce n'est pas exact. Je donne souvent l'exemple donné par Emmanuel Faber, qui est le vice-président du groupe Danone, qui a calculé que si on enlevait 30% de la rémunération des 1% les mieux payés de l'entreprise, on pourrait multiplier par deux les salaires des 20% les moins bien payés du groupe.
Sœur Cécile Renoir, directrice à Paris du programme de recherche Entreprises et Développement des pays émergents. Berlin accueillera un parvis des gentils du 26 au 28 novembre sous les auspices du Conseil pontifical de la culture. Le thème choisi, expérience de liberté avec ou sans Dieu. Une question au cœur des débats, la foi en Dieu menace-t-elle la liberté ou est-elle au contraire son fondement? En accord avec le maire de Berlin, l'initiative se déroulera dans quatre lieux symboliques de la ville. La réflexion portera sur la politique, la recherche médicale et l'expression artistique. Au cours d'une conférence de presse ce lundi matin au Vatican, le président de la conférence des évêques allemands a affirmé qu'il s'agissait aussi de mettre fin aux malentendus et aux préjugés qui opposent les croyants aux humanistes athées. Les croyants pensent que l'athéisme affaiblit les comportements éthiques, les athées assimilent les religions à des fanatismes dangereux et irrationnels. Et en marge de cette conférence de presse, le président de la conférence épiscopale allemande a par ailleurs assuré que l'affaire de l'évêque de Limbourg, accusé d'avoir dépensé des sommes faramineuses pour restructurer le siège de l'épiscopat, n'allait pas rester sans conséquences. Cette affaire a pris une grande ampleur en Allemagne. De nombreux catholiques ont réclamé la démission de l'évêque. Le Vatican a envoyé mi-septembre un observateur dans le diocèse, le cardinal Laiolo, qui doit remettre son rapport. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous rejoindre également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de votre fidélité.